Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
Bonjour les papillons, bienvenue dans votre magazine de culture générale. Et tout de suite, vous allez découvrir le pouvoir des mots, des gros mots. Bonjour Guillaume Jacquemont.
Bonjour Céline.
Ravi de vous accueillir dans Minute Papillon. Vous êtes journaliste pour Cerveau et Psycho et vous consacrez un dossier absolument génial au pouvoir caché des jurons. Ces gros mots, pourquoi c'est pas des mots comme les autres ?
Alors d'abord parce qu'ils ont un pouvoir que n'ont pas les autres mots. Si vous descendez dans la rue et que vous insultez un petit peu les gens, vous allez vous rendre compte que ça provoque des réactions un peu plus fortes que d'habitude. Donc ça a le pouvoir de transmettre des émotions, d'humilier, de rabaisser. Et aussi sur le plan purement linguistique, c'est une forme verbale très condensée. Au point que certains linguistes pensent que c'est une forme primitive de langage. En fait, on a des moyens très économes, on transmet tout de suite beaucoup de sens, d'émotion.
Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de dire des gros mots dans le sens, il y a du plaisir avec l'interdit. Voilà, mes enfants, ils ont 3 et 7 ans, ma petite fille, elle est contente de me regarder et de dire « dégueulasse », parce qu'elle l'a entendu une fois et elle se dit oh, « mais quelle jouissance de pouvoir lui dire !» Moi, de le dire, évidemment, je lui dis « non, ça reste en cadre de la famille. » Et encore, ça ne se dit pas comme ça.
Oui, tout à fait, les gros mots ont beaucoup à voir avec la transgression, l'interdit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit des variations culturelles dans les gros mots, des variations même individuelles. Certaines personnes, bon, c'est Maxime Le Forestier, je crois qu'il disait que Georges Brassens traitait tout le monde de con. Mais c'était dit d'une façon que c'était pas un gros mot, c'était une façon affectueuse.
Et c'était un compliment presque.
Voilà.
Con. Guillaume Jacquemont, les gros mots, c'est un peu... voilà, c'est des mots dont on a un peu honte, on dit que c'est pas bien de dire des gros mots, on va découvrir à quel point ils font du bien à la santé dans un instant. Mais ces gros mots, c'est pourtant une discipline très sérieuse, et ça je l'ai découvert dans votre magazine. L'étude de ces gros mots, bien sûr.
Tout à fait. La malédictologie qui a été fondée dans les années 70 par un ancien chimiste qui avait un profil un peu varié. Et donc du coup, maintenant, ça mobilise des psychologues, des sociologues, des neuroscientifiques qui vont mener toutes sortes d'expériences, de la neuroimagerie. Ils vont mesurer les émotions des gens avec des appareils spécifiques. Et avoir du coup un point de vue assez large sur les jurons.
On peut dire qu'à la fac, on peut prendre malédictologie en option.
Alors, je ne sais pas si c'est une option spécifique, mais en tout cas, comme psychologue ou comme neuroscientifique ou comme sociologue, vous pouvez vous orienter là-dessus.
Dire des gros mots quand on se fait mal, est-ce que ça, c'est une bonne idée ? C'est vrai que c'est plus fort que nous, le putain, il sort assez vite.
C'est une très bonne idée, parce que ça atténue la douleur perçue. Et ça, si. Ça, on le montre dans des expériences de laboratoire assez amusantes. Alors, il faut imaginer un dispositif expérimental, parce qu'on ne peut pas non plus taper complètement sur des participants innocents. Ce ne serait pas très éthique. Donc, ce qu'on fait en général, c'est on utilise un bac d'eau froide, d'eau gelée. Et on leur demande de plonger la main dedans. Et ça donne un stimulus assez douloureux et assez désagréable. Et ensuite, quand on leur demande de remplir une échelle de douleur perçue, on s'aperçoit que la douleur est moins intense. Et on s'aperçoit aussi que...
S'ils ont dit des gros mots en même temps, en mettant la main.
En mettant la main. Et ils sont capables d'ailleurs de laisser la main plus longtemps, 40 secondes de plus, que des participants qui ne jurent pas en même temps.
On peut dire que jurer, c'est bon pour la santé. Ça réduit quoi ? La libération de cortisol, cette hormone du stress, par exemple. C'est quelque chose que j'ai découvert en vous fréquentant, Cerveau et Psycho.
Alors, en tout cas, ça réduit les tensions quand on fait des enquêtes auprès des gens, ils disent tous que ça leur fait du bien, que ça soulage le stress. Le philosophe Émile Cioran aussi avait déjà eu cette intuition-là dans les années 50. Il disait « Voulez-vous multiplier les aliénés, aggraver les troubles mentaux, construire des asiles d'aliénés à tous les coins de la ville ? Interdisez les jurons. » Donc, les psychologues ne vont pas aussi loin, mais en tout cas, on s'aperçoit que oui, ça a vraiment un vrai pouvoir de relâchement des tensions.
Il y a des jurons ou des gros mots qui font plus de bien que d'autres. Est-ce que vous connaissez par exemple, les jurons préférés des Français aussi.
Voilà. Alors, est-ce qu'on a fait une échelle du juron ? Je ne suis pas sûr. Je pense que ça dépend un peu de chacun. Voilà. C'est personnel et quand même un peu culturel. Parce qu'en revanche, effectivement, on a étudié dans les différentes nationalités. Et en français, c'est beaucoup les verbes sexuel, anal, putain, merde, ce genre de choses. En revanche, on s'aperçoit que chez les Italiens, c'est plus sexuel. Chez les Néerlandais, ça va plus être des maladies. On va utiliser des paraphrases de cancer. Alors, j'ai pas le mot néerlandais exact. Je suis pas sûr qu'il parlera à vos auditeurs de toute façon.
On parle de maladies. On cite des noms de maladies
on souhaite la maladie
aux gens.
De cancer, mais juste des mots utilisant cette maladie vont passer pour des jurons et vont être insultants.
Je découvre aussi dans Cerveau et Psycho que les jurons peuvent changer notre perception d'une personne. Ça veut dire quoi, ça ? De quelle façon ?
Alors, ça va modifier la crédibilité perçue, en effet. Et ça, on l'a montré sur des expériences dans le domaine criminel, notamment. Mmh. On faisait des déclarations fictives de personnes soupçonnées d'un crime et on demandait à des participants de est-ce que vous trouvez qu'il est crédible ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on s'apercevait que quand il y avait des jurons dans ces déclarations, on les trouvait plus convaincants. Quand ils disaient putain, j'étais pas là, merde, on disait, on le croit plus que s'il dit juste je n'étais pas présent ici, sans mettre de jurons.
Donc, c'est un gage d'authenticité. Le juron.
Voilà, en tout cas, c'est perçu comme ça. Ça ne veut pas dire qu'en vrai, il sera plus honnête, mais on le perçoit comme plus authentique. Et c'est vrai aussi, on a fait aussi des expériences dans le domaine politique.
Ouais.
Les déclarations d'hommes politiques étaient perçues comme plus convaincantes quand elles incluaient des jurons, ce qui peut sans doute contribuer à expliquer l'émergence de leaders populistes comme Trump ou autre.
Mais ils peuvent aussi cacher des troubles neurologiques, dire des gros mots, faire des lapsus à répétition. C'est vrai que ça peut être maladif ?
Ça peut être maladif, notamment, dans plusieurs pathologies, et notamment dans le syndrome de la Tourette, où les gens vont effectivement, dans 20% des cas à peu près, avoir un symptôme qu'on appelle coprolalie, c'est-à-dire une tendance coprolalie.
Coprolalie, d'accord.
Donc une tendance compulsive à prononcer des mots orduriers, obscènes, etc.
Guillaume Jacquemont aussi, dans votre magazine, on découvre que Mozart souffrait d'une pathologie comme ça,
Alors c'est probable, oui. Alors on lui a pas diagnostiqué. Une hypothèse parce que on lui a pas diagnostiqué le syndrome de la Tourette parce que on n'avait pas encore découvert cette maladie à l'époque. La découverte de ça date de la fin du 19e siècle. Mais effectivement, Mozart, de temps en temps, était très agité, avait un langage très ordurier, très obscène. Et donc, à l'époque, ses contemporains l'attribuaient aux éruptions de son génie, au tempérament un peu fantasque de l'artiste, ouais. Mais des neurologues d'aujourd'hui n'auraient sans doute pas eu tout à fait le même angle d'analyse.
Donc, les gros mots, on peut dire, il ne faut plus avoir honte de les prononcer, en fait, finalement. C'est un peu la conclusion, parce que c'est un peu novateur ce que vous nous racontez quand même, que les gros mots soulagent. Alors, quelle est l'ordonnance, docteur ?
Tout est dans le contexte, parce que les gros mots peuvent aussi humilier, rabaisser, etc. Donc, c'est sûr que avec des interlocuteurs, il faut quand même être prudent à ce que vous enseignez à vos enfants. Alors, enseignez pas non plus d'insulter tout le monde autour de vous.
Mais quand on se fait mal.
Voilà, quand on se fait mal, quand on est stressé en soi, on peut se lâcher un peu, ça ne vous fera que du bien.